Tounou Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Tounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, pourquoi ça gratte, sécheresse, rougeur, boutons et le besoin impérieux de se gratter. Quand ces soucis dermatos s'installent, il y a de gros risques que l'on soit touché par un eczéma. Et ces démangeaisons répétées rendent fou et peuvent générer des états dépressifs. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas contagieux. Et je vous dis aussi que dans le monde, les personnes atteintes d'eczéma ont triplé en 30 ans, avec plus de 2,5 millions de malades en France. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Comment reconnaître les différents types d'eczéma? Pourquoi ça commence souvent dans l'enfance? Quels sont les problèmes spécifiques de la peau des nouveau-nés et des enfants? Et enfin, comment prévenir la maladie et sortir de l'isolement pour mieux vivre avec? Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Sébastien Barbaro pour répondre à vos questions. Bonjour docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Bien installé donc dans nos studios de Nantes. Je remercie d'ailleurs les équipes de France Bleu Loire-Océan de vous accueillir. Docteur Sébastien Barbaro, vous êtes dermatologue, pédiatre au service de dermatologie du CHU de Nantes. Donc beaucoup de questions pour vous sur ces problèmes de peau, ces rougeurs, ces démangeaisons. Nous ferons aussi le pont nord-sud puisque dans 20 minutes nous aurons le docteur Christine Mandingue qui est dermato-vénérologue à l'université des montagnes à Bangadé. C'est au Cameroun. Nous attendons donc vos témoignages, vos questions sur vos soucis de peau ou ceux de vos enfants au 33 1 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. Et en fin d'émission, direction le festival Solidez. 20 ans maintenant, 20 ans que ça dure. Nous ferons le bilan avec le directeur fondateur de Solidarité Sida et qui est également l'organisateur du festival. C'est Luc Baruet, donc pour le festival Solidez qui a lieu à Paris ce week-end, là, du 22 au 24 juin à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Eczéma, quel drôle de mot, pas courant dans la langue française. D'où vient-il ce mot, docteur Sébastien Barbaro?
Il vient du grec, comme beaucoup de mots de médicaux. Et en fait, l'eczéma veut dire peau rouge qui démange, voilà, et qui a tendance à suinter. Donc c'est une description. Et en fait, il y a plusieurs types d'eczéma. Il y a l'eczéma atopique, qui est la forme la plus fréquente d'eczéma, celle dont on va, je pense, parler le plus, qui débute dans l'enfance. Et puis, il y a une autre forme d'eczéma qui est l'eczéma de contact. L'eczéma de contact est une allergie à un produit externe, par exemple une allergie à un métal, une allergie à un produit que l'on applique sur la peau. Et cet eczéma de contact touche plutôt les adultes. Donc l'eczéma atopique, c'est plutôt l'enfant, il y a aussi quelques cas adultes. Et puis l'eczéma de contact, c'est plutôt l'adulte.
Est-ce que c'est considéré l'eczéma vraiment comme une véritable maladie?
Alors c'est une véritable maladie, mais depuis longtemps, il y a un peu une confusion autour de cette maladie, eczéma atopique, parce que on pense parfois que c'est simplement un petit problème de peau qui va disparaître rapidement, qui ne nécessite aucun traitement, qu'il n'y a rien à faire, il faut attendre que ça passe. Et cette vision, cette croyance est très délétère pour les patients parce que souvent ils se sentent incompris, pas bien écoutés par les médecins, notamment.
Oui, alors qu'ils vivent un véritable calvaire, il faut le dire.
Oui, certains vivent un véritable calvaire avec cette maladie. Donc c'est une vraie maladie, avec des traitements, avec une prise en charge qui est codifiée. Et il faut reconnaître cette maladie tôt et la prendre en charge correctement.
C'est la maladie la plus fréquente que vous rencontrez dans votre cabinet de dermato?
Oui, c'est une des maladies les plus fréquentes en dermatologie. C'est la maladie inflammatoire la plus fréquente en pédiatrie, une fréquence qui est semblable à celle de l'asthme. Donc c'est une maladie qui est du quotidien d'un dermatologue et d'un médecin généraliste et d'un pédiatre.
Alors on va écouter tout de suite le témoignage d'une enfant, c'est Nessa. Elle a 11 ans, elle est en 6e aujourd'hui, elle aime beaucoup la danse. Et notre reporter Philippine Lebret l'a rencontrée avec sa grand-mère, Cécile, qui est membre actif de l'Association française de l'eczéma. Et en fait, depuis l'âge de 3 ans, Nessa, elle souffre d'un eczéma atopique. Vous disiez, c'était le plus généralisé. Alors pour elle, il est localisé surtout au niveau des hanches et dans le creux des genoux. Et cet eczéma s'accompagne d'autres allergies, puisqu'elle est allergique aussi au pollen, à la poussière, au poisson et encore à d'autres aliments. Alors le diagnostic de l'eczéma a été posé rapidement après le début des crises. Mais ce qui a été plus compliqué et beaucoup plus long, c'est la recherche d'un traitement efficace.
Le plus compliqué, ça a été de trouver le bon traitement. On a vu des allergologues, on a vu des dermatos, on a fait des cures, on est allé voir des coupeurs de feu, on est allé voir des spécialistes des plantes. Donc certains disaient qu'il faut mettre beaucoup de pommades, d'autres très peu, d'autres sur les paupières, d'autres pas. D'autres nous alertaient que si on mettait sur le visage, la peau deviendrait trop fine. D'autres médecins nous disaient si, il faut en mettre sur le visage. En fait, c'est très difficile d'accepter, de faire confiance, sachant qu'on a des avis un peu contradictoires à droite à gauche. En plus, on recevait tout le temps des conseils parce que toute la famille était impactée, on n'était pas les seuls. Mais en fait, on pouvait pas non plus, Nessa n'était pas une piste d'essai, en fait, sur laquelle on devait tester tout ce qui passait. Et on a essayé des choses, mais rien ne fonctionnait.
À partir de quand est-ce que vous avez trouvé le bon traitement?
Alors, le bon traitement, on l'a trouvé tout à fait par hasard. Je suis partie pour ma retraite m'installer en Loire-Atlantique. Et l'association de l'eczéma avait organisé une conférence avec un médecin spécialiste de l'eczéma qui s'appelle le docteur Chavigny. Et je l'ai tout de suite attrapé à la sortie de la réunion pour avoir un rendez-vous avec lui. Et depuis, notre vie a changé avec l'eczéma. D'abord, avec ses explications, on comprend beaucoup mieux. Par exemple, quand il nous fait le rapprochement entre un incendie et puis un eczéma. Alors, quand vous avez un incendie, si vous mettez très peu d'eau, non seulement vous allez mettre beaucoup de temps à l'éteindre, mais il risque de redémarrer. Forcément, l'eczéma, c'est un peu la même chose. La pommade, il faut en mettre suffisamment en rapport avec les crises. On nous disait, ne mettez pas trop, c'est vrai que c'est de la pommade à la base de cortisone, etc. Mais on ne sortait jamais des crises. Et là, il nous a appris à utiliser donc la pommade avec de wet wiping, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de pommade. Ensuite, on couvre la peau avec des pansements, des bandes. Deux bandes, la première bande mouillée, donc wet wiping, et une deuxième bande pour tenir. Et en 2-3 jours, la peau redevient quasi normale. Alors qu'avec les traitements précédents, un petit peu de pommade, pas trop, on sortait jamais des crises. Donc Nessa a été quelquefois bandée de la tête aux pieds parce qu'elle avait des plaies partout. Elle se grattait, elle arrachait la peau. Donc notre vie a complètement changé et effectivement la sienne aussi, puisque maintenant elle dort. La nuit, elle dormait quasiment pas. Elle devait aller à l'école épuisée. Nous aussi, parce que, forcément, on était réveillés la nuit. Il fallait faire des pansements en pleine nuit. Il y avait du sang partout, changer les draps. Le lendemain, personne n'avait dormi. Et ça, on ne connaît plus aujourd'hui tout ça.
Et le docteur Chavigny, quand vous l'avez rencontré à Nantes, Nessa avait quel âge ?
Quand on a rencontré le docteur Chavigny, Nessa avait 7 ans.
Nessa, quand tu as trouvé un traitement qui enfin fonctionnait, qu'est-ce que tu as ressenti ?
J'ai eu l'impression d'être libérée de tous ces médicaments, de tous les mois aller à l'hôpital, être hospitalisée 3 jours environ tous les 6 mois, rater l'école et tout ça, j'en avais marre. Donc quand j'ai trouvé ça, j'ai vraiment eu l'impression d'être libérée en fait.
Parce qu'aujourd'hui, ton suivi médical, il consiste en quoi ?
Normalement, je suis suivie par 2 dermatologues et celui à Nantes, j'essaie de le voir tous les 2 mois. Et celui à Necker, j'essaye de le voir une fois par an, non ?
Oui, maintenant on y va moins parce que ça va mieux.
Nessa, même si aujourd'hui ça va mieux, est-ce qu'il y a encore des moments où tu as très 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 envie de te gratter ?
Oui, il y a encore des moments où j'ai très très envie de me gratter parce que le wet wiping, ça fait partir l'eczéma, mais les plaques qui restent me grattent quand même. Et je pense qu'on ne trouvera jamais de crème qui empêcheront de se gratter. Quand j'ai très envie de me gratter... Bah, comme je l'ai dit au début, j'aime bien danser, donc je mets de la musique et je commence à danser pour me distraire. Je joue aux cartes ou soit j'essaye de parler, en fait j'essaye de me distraire en même temps.
Mais ça, est-ce que tu as déjà été la cible de moqueries à cause de ton eczéma ?
J'ai été confrontée aux insultes et les moqueries dès le début de la maternelle. Mes camarades, ils me disaient que j'avais la varicelle, que c'était des verrues, qu'il fallait pas que je les touche pour pas qu'ils attrapent ça, que j'étais dégoûtante, que je me lavais pas et plein d'autres choses comme ça.
Et aujourd'hui, ces moqueries, elles continuent ?
Les moqueries ne continuent plus, non, parce que je fais comprendre aux gens que c'est pas de ma faute et que leur regard et leur façon de parler, ça va rien changer, en fait. Plus je grandis et plus j'arrive à m'accepter, en fait.
C'est ça aussi qui est dur dans cette maladie, le regard des autres, hein, comme le dit Nessa, là, qui a 11 ans. Docteur Sébastien Barbaro, vous êtes dermatologue pédiatre au service de dermatologie du CHU de Nantes. Effectivement, ça fait partie aussi de la difficulté de la maladie, ce qui est dur à vivre aussi.
Oui, bien sûr. En particulier dans l'enfance, à l'école, les enfants qui ont un eczéma atopique visible sont la cible de moqueries. Les enfants, pas forcément pensant à mal, mais veulent savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'eczéma, est-ce qu'on a des risques de contagion, et puis parfois rejettent un peu les enfants qui ont un eczéma sévère. Donc c'est un problème important, oui.
Donc là, elle s'accepte beaucoup mieux maintenant. Enfin, elle est capable de répondre, hein, effectivement, aux attaques, puisqu'elle a enfin trouvé ce traitement. Alors, qu'est-ce qui fait que... D'abord, on peut peut-être reparler juste de la peau, puisque vous êtes un spécialiste de la peau. La peau, c'est quand même notre enveloppe, c'est ce qu'on donne à voir de nous aussi. C'est pour ça aussi que c'est si délicat.
Oui, la peau, c'est l'organe qui permet la relation avec l'autre. C'est ce qu'on voit d'abord de l'autre. On voit son visage, on voit ses mains, on voit ses avant-bras. Et donc, quand une maladie altère, modifie l'aspect normal, entre guillemets, de la peau, du visage et des mains, des interrogations surviennent dans l'environnement et des questions. Donc, il faut noter la prise en charge d'un enfant qui a de l'eczéma aussi comprend l'aide des enfants et des familles à mieux vivre et mieux savoir réagir dans l'environnement, à l'école, à ces questions.
Parce qu'on va, avant de prendre Fortuné hein, qui nous appelle de Brazzaville, juste revenir effectivement sur les symptômes hein, qui commencent souvent dans l'enfance. Donc, est-ce qu'on peut le décrire un peu en détail ? Bon, ça gratte, ça, déjà, premier symptôme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comment ça s'est localisé ?
Alors, il y a la localisation de l'eczéma dépend de l'âge. Chez les tout-petits nourrissons, l'eczéma est souvent situé sur les joues, les avant-bras, les cuisses, l'abdomen. Et puis, quand l'enfant grandit, l'eczéma va se localiser plus au niveau des plis, derrière les genoux, au niveau des plis des coudes, et sur le visage et le cou. Donc, la localisation varie avec l'âge. Donc, des démangeaisons, et puis une peau qui est rouge, qui est un peu rugueuse, et qui parfois, quand on se gratte beaucoup, suinte un peu. Donc voilà comment se manifeste l'eczéma.
Alors on va tout de suite prendre Fortuné, puisqu'elle a des questions concernant sa fille à Brazzaville. Bonjour Fortuné.
Bonjour Madame Sandrine, et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Merci d'être avec nous, d'avoir composé le 33 1 84 22 75 75. Nous vous écoutons.
Oui, bon, j'ai ma fille de 3 ans qui souffre d'eczéma, mais... Je l'ai emmené chez le pédiatre tant de fois, on l'a prescrit près de plus de 4 produits là, ça ne gênait pas de solution. Récemment, ça fait 3 jours de cela, on m'a prescrit le banéocide, le banéocin, je dis comme ça, mais ça ne fait que persister. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que le docteur me conseille. L'enfant n'a même pas fait les examens, on l'a libéré de la salle pour de peur qu'elle puisse contaminer les autres enfants. Donc, je demande conseil. Quelles sont les mesures à prendre encore, les produits à la donner?
Pourquoi vous parlez de contamination? On peut pas...
Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie contagieuse. Parce qu'on l'a chassé de l'école. On l'a demandé de rester à la maison, suivre le traitement.
Ah, alors, carrément. L'école vous a demandé de retirer l'enfant?
Oui. Ils avaient peur. Ils se sont dit, mais la maladie ne fait que s'empirer de jour au jour.
Donc, on va déjà peut-être vous rassurer sur le côté de la contagion, docteur Barbaro.
Oui, la maladie n'est pas contagieuse, hein, dans aucun cas. Donc, s'il s'agit bien d'un eczéma atopique, il n'y a aucun risque de contagion à d'autres enfants. Alors, En ce qui concerne la nécessité parfois d'enlever les enfants de l'école pour un traitement, c'est très rare, mais ça peut arriver quand l'enfant est un eczéma très sévère, et ça peut être utile pendant quelques jours de faire des soins à domicile ou même parfois au cours d'une hospitalisation de 2-3 jours pour faire des soins un peu intensifs pour permettre d'améliorer rapidement les symptômes. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu avec le témoignage de Nessa et de sa famille, le problème n'est pas tant de trouver un traitement miracle. Le problème est de bien appliquer le traitement et de bien faire le traitement. Et ça nécessite du temps, une explication, de rencontrer un médecin qui connaît bien la maladie et qui va prendre le temps d'expliquer comment faire le traitement en détail. Et très souvent, cette étape n'est pas réalisée ou est mal réalisée et les gens sont très démunis parce que ils passent d'un médecin à l'autre ou d'un conseil à l'autre. Il y a beaucoup de conseils, chacun a un conseil pour donner l'eczéma, autour de l'eczéma, c'est très particulier à cette maladie. Chacun a de bons conseils, la grand-mère, la tante, le guérisseur, essaye ça, essaye cette crème-là, cette plante-là. Et les gens papillonnent d'une personne à l'autre et finalement sont très démunis.
Donc
et
c'est ce qu'a fait un peu fortuné. Donc qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller?
Exactement. Oui. Eh bien, il faut prendre le temps d'expliquer comment appliquer le traitement. On utilise très souvent des dermocorticoïdes. Alors ce médicament a très mauvaise presse parce que dans l'entourage, on dit souvent les corticoïdes, ça fait peur, ça va entraîner des effets secondaires sur la peau, sur la santé de l'enfant. Il faut rassurer les auditeurs sur le caractère bénin et n'entraînant pas d'effets secondaires des corticoïdes sur l'enfant quand ils sont bien appliqués. Ce traitement permet de réduire l'inflammation dans la peau très rapidement. Et il faut, comme la maman de Nessa nous l'a dit tout à l'heure, utiliser une quantité suffisante au début du traitement pour contrôler très rapidement la maladie. Et ensuite, on maintient l'effet que l'on a obtenu au début de ce traitement d'attaque, entre guillemets, qui permet de contrôler rapidement la maladie. Donc il faut des quantités assez importantes au départ, dans de bonnes conditions, bien appliquées, pour que la maladie soit contrôlée. Sinon, on sous-traite les patients. Et l'eczéma est toujours là et les démangeaisons sont toujours là et on ne fait que alimenter les choses.
Est-ce qu'il faut conseiller à Fortuné, comme on l'a entendu, donc d'en mettre une bonne couche? Enfin, mettre une bonne couche de produit. Et elle proposait donc de mettre par-dessus un tissu humide, plus par-dessus. Est-ce que ça permet effectivement de maintenir la...
Alors, dans certains cas, c'est utile dans les formes assez sévères qui ne répondent pas à un traitement simple. C'est-à-dire quand on met la crème normalement et que ça ne fonctionne pas, on peut être appelé parfois à mettre ces traitements sous occlusion avec donc des bandages un peu humides. Mais c'est une technique qu'il faut là aussi bien expliquer aux patients, prendre le temps de le faire. Nous, on a une petite vidéo sur le site du CHU de Nantes qui explique comment on utilise ce traitement et qui permet aux parents de le faire à domicile. Mais c'est pas un traitement qu'on utilise pendant un mois, deux mois, tous les jours. Non, c'est un traitement intensif pendant quelques jours qui permet de contrôler la maladie.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en lien effectivement cette vidéo que vous avez faite pour l'utilisation de cette technique avec ces bandes humides. On mettra en lien la vidéo sur Priorité Santé pour les auditeurs. Fortuné, est-ce que ça vous va dans cette manière d'appliquer?
Oui, donc j'arrête le banosin.
Alors je ne connais pas ce traitement local, donc je ne peux pas exactement vous donner de conseils vis-à-vis de ce traitement, je ne sais pas ce qu'il contient.
D'accord. Merci.
Donc, en tout cas, trouver une crème, parce que vous disiez que vous en aviez déjà utilisé plusieurs, hein, Fortuné, c'est ça. Donc, de toute façon. Donc, essayez de l'appliquer d'une manière assez importante. Et on va mettre en lien cette vidéo. Peut-être que ça vous donnera des pistes pour l'appliquer pendant 2-3 jours au début pour amorcer le traitement. D'accord?
Merci
beaucoup, Fortuné. Alors, on l'entend, donc l'enfant de Fortuné, la fille de Fortuné est touchée. Je voudrais qu'on évoque aussi ce phénomène qui est en pleine croissance, c'est l'eczéma tout de même, 3 fois plus de malades en 30 ans, je crois, à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Vous le constatez, vous?
Alors, effectivement, la fréquence de la maladie a augmenté ces 30 dernières années, surtout dans les pays en voie de développement. Alors que dans les pays industrialisés depuis longtemps, la fréquence semble se stabiliser autour de 10 à 15% de la population pédiatrique, ce qui est énorme. C'est une maladie très très fréquente. Alors pourquoi ça augmente? Il y a deux types d'explications. La première sont... sont liés à des facteurs d'environnement. De plus en plus, on vit dans des environnements qui sont stérilisés, loin des animaux, avec des pratiques d'hygiène qui sont de plus en plus intenses. Et cet hygiénisme, entre guillemets, probablement augmente le risque de développer des maladies comme la dermatite atopique.
Donc parce qu'on lave trop les nourrissons, c'est ça ?
Et oui, on les lave trop et les enfants qui ont un eczéma atopique ont une barrière cutanée qui est très fragile à la naissance. Ça, c'est lié à des facteurs génétiques. Ils naissent comme ça. Et quand on agresse cette barrière cutanée très tôt par des lavages excessifs avec du savon qui va altérer la barrière cutanée qui est très fragile génétiquement, eh bien, l'inflammation va prendre naissance dans la peau. Et les allergènes de l'environnement vont pénétrer à travers cette barrière cutanée qui est fragile et stimuler le système immunitaire. Donc l'eczéma va s'aggraver progressivement et en plus, les enfants vont pouvoir développer des allergies à cause de la pénétration des allergènes par la peau. Donc il est très important de prendre en charge l'eczéma atopique très tôt dans la vie, dès le début des symptômes, pour éviter ce cercle vicieux qui va conduire à l'aggravation progressive de la maladie.
Donc vous le dites, les pays riches sont le plus touchés aujourd'hui, mais ça se développe aussi en Afrique. Là, on va avoir Osana qui nous appelle tout de suite de Béthoto. Bonjour Osana.
Bonjour Sandrine, bonjour au docteur et félicitations aux joueurs sénégalais.
Ah ben voilà, on pense à eux aussi, on a fait la fête avec eux aussi. On vous écoute Osana.
Sandrine, mon cousin a une inflammation de la peau au niveau de la partie inférieure des jambes et le médecin dit que c'est de l'eczéma. Alors je veux savoir est-ce que cette maladie est incurable et puis comment se faire le test de l'eczéma.
Ah, est-ce qu'il faut faire donc un test ? Quel genre de test il faut faire pour savoir si ces inflammations de la peau sont véritablement de l'eczéma ou autre ? Merci Osana pour votre question. C'est le docteur Sébastien Barbaro qui répond.
Alors, comme je le disais au début de l'émission, il y a deux types d'eczéma. L'eczéma atopique le plus fréquent et l'eczéma de contact qui est une allergie à un produit. Pour l'eczéma atopique, il n'y a pas de test. Le diagnostic est clinique, c'est-à-dire qu'un médecin doit pouvoir reconnaître en examinant le patient s'il s'agit d'un eczéma atopique ou non, dans la très grande majorité des cas. Il n'y a pas besoin de faire de test, pas de prélèvement cutané, pas de prise de sang. Pour l'eczéma de contact, qui est une allergie, il y a des tests à faire, des tests qui sont faits par un allergologue ou un dermato-allergologue qui consistent à poser des produits sur la peau et observer la réaction de la peau à ces produits pour déterminer le produit auquel on est allergique.
Alors, comment prévenir l'eczéma, mieux vivre avec ? On continue après Bob Ice et Carlos Santana qui chantent Brown Skin Girl.
Have me addicted to the poetry. Never really knowing just who I am. I confess that I don't mind at all. 'Cause I was trained the world away to stay inside this dream. Crazy, 'cause I don't know if she feels the same. She likes to read some mystery and all she does. She laughs and says that I'm a nerd.
Des plaques rouges qui grattent, la peau qui pèle, des lésions qui saignent et les gens qui vous regardent. Comme si vous aviez la lèpre, l'eczéma n'est pas facile à vivre. Alors que 2,5 millions de Français souffrent physiquement et psychologiquement d'eczéma. Que peut-on attendre en termes de nouveaux traitements pour cette année 2018 ? Dermatite atopique, eczéma chronique des mains, eczéma de contact, quelle que soit sa forme, il faut bien savoir que l'eczéma vraiment altère la qualité de vie des gens. Troubles du sommeil, scolarité interrompue, on l'a entendu, discrimination aussi à l'embauche, troubles de la libido, ça va se loger effectivement jusque-là, l'anxiété, dépression, isolement. Alors comment s'en débarrasser? Comment mieux traiter l'eczéma? Nous sommes avec le docteur Sébastien Barbado, dermatologue pédiatre au service de dermatologie du CHU de Nantes. Est-ce qu'on peut dire que le stress aussi joue un rôle important dans cette maladie?
Oui, le stress, comme dans beaucoup de maladies chroniques, joue un rôle important parce que c'est un facteur qui va aggraver, parfois déclencher une poussée d'eczéma. Mais il est très important de dire que le stress n'est pas la cause de l'eczéma. Souvent, il y a une confusion autour de ça.
Oui, des fois, on peut penser que c'est une maladie psychologique, quoi.
Exactement. Les patients entendent dans leur entourage que... t'as de l'eczéma parce que t'es stressé. Et donc ça, c'est perçu par les patients comme quelque chose qu'ils doivent régler en eux. Bon, je suis stressé, mais en fait, je suis pas vraiment stressé dans ma vie quotidienne, ça va. Et donc, ils ne comprennent pas où chercher le stress, où chercher la cause du stress. Donc, il faut rassurer les patients en disant que l'eczéma n'est pas dû au stress, mais que le stress, comme beaucoup d'autres facteurs, peut-être un facteur qui aggrave la maladie ou qui déclenche une poussée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge les conséquences psychologiques d'un eczéma sévère. Ça, c'est très important parce que quelqu'un, bien sûr, vous l'avez dit, qui a un eczéma sévère, a un retentissement dans sa vie quotidienne qui nécessite parfois une aide psychologique.
Oui, ça peut aller jusqu'au trouble de la libido.
Oui, comme toutes les maladies chroniques, elles perturbent la vie intime, notamment parce que on parlait tout à l'heure de cet organe peau qui est l'organe du contact et de la relation, et c'est aussi l'organe de la relation intime. Donc quand cet organe est altéré, modifié, eh bien ça peut perturber évidemment les relations intimes.
Alors nous allons partir maintenant au Cameroun, à l'ouest du Cameroun exactement, à l'université des montagnes de Bangangté, et nous avons rendez-vous avec le docteur Christine Mandangué. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec
Bonjour.
Nous sur RFI. Vous êtes dermato-vénérologue, donc à l'université des montagnes. Vous êtes à l'ouest du Cameroun. Alors, est-ce que sous le soleil du Cameroun, les peaux se portent mieux?
Écoutez, les peaux ont beaucoup de problèmes aussi. Notamment concernant l'eczéma, puisque c'est le sujet. Nous sommes dans un contexte allergénique multifactoriel, donc l'eczéma, oui, est fréquent.
Et c'est la première cause de consultation pour vous, docteur?
Non, disons que peut-être pas la première cause, mais au moins 30% des consultations concernent l'eczéma, notamment chez les enfants. Chez les adultes, j'en vois, c'est les eczémas de contact ou alors des eczématides, des choses qui sont pas très très nettes à définir. Oui.
Est-ce que vous constatez aussi que les bébés sont de plus en plus affectés par l'eczéma?
Oui, parce que la dermatite atopique est fréquente chez nous. Elle se présentera peut-être pas de la même façon que en Europe ou en France notamment, mais elle est très fréquente.
Elle se présente comment pour aider les auditeurs à le repérer?
Oui. Voilà. Donc chez nous en Afrique, je suppose que dans les autres pays c'est la même chose. L'enfant de 12 à 18 mois, c'est souvent les plis poplités, les plis des coudes qui sont atteints. Ou avec ces éléments annulaires, avec une bordure circinée comme ça, ou alors des plaques numulaires sur la peau, un peu éparpillées partout, ou une peau très sèche et très pruginose. Voilà, donc c'est le bébé, j'en ai rarement vu chez les bébés, avec ce visage tout rouge, déjà l'érythème est un peu moins accentuée sur nos peaux, avec cette atteinte du visage et tout, les zones. Non, c'est très. Ça ne se présente pas de la même façon. Et j'en ai très peu vu chez les bébés aussi.
Et quels sont les conseils que vous donnez aux parents?
Eh bien, les conseils, moi notamment, puisque je leur demande de les habiller pas trop chaud, parce que bon, à l'ouest du Cameroun, il fait frais, contrairement à ce que les gens pourraient faire frais, on a besoin de se couvrir. Et donc, je leur demande d'éviter les tissus qui sont mélangés, de privilégier le coton. Ce que je leur demande, et de graisser la peau. Évidemment, chez nous, on a des problèmes pour trouver des cosmétiques qu'on retrouve en France. Et bien, on utilise beaucoup plus l'huile de palmiste. On utilise l'huile de palmiste. Je leur demande d'hydrater beaucoup la peau de l'enfant et d'éviter tous ces savons parfumés et tout ça. Voilà.
Ah oui, donc, ça, il faut vraiment le proscrire, hein, oui. Les savons parfumés. Vous êtes d'accord aussi, oui. Docteur Barbado?
Oui. Barbaro, oui. On donne les mêmes conseils concernant l'utilisation de produits doux pour le lavage. Notamment, on demande aux parents d'éviter le savon, parce que le savon est assez agressif pour la peau. Donc, on demande d'utiliser des gels sans savon, non parfumés, et d'appliquer des crèmes hydratantes sur la peau. Il y a beaucoup de types de crèmes hydratantes qui sont disponibles en France. Donc on ne donne pas donné de marque, mais plusieurs crèmes sont assez adaptées aux bébés.
Oui, on donne souvent aussi l'idée de l'huile d'amande douce, non, ou des choses comme ça.
Oui, alors nous on essaie d'éviter l'utilisation de produits qui contiennent des extraits végétaux sur la peau en raison du risque d'allergie de contact justement. Alors peut-être que je peux poser la question à ma collègue camerounaise, est-ce que vous avez des problèmes d'allergie de contact aux produits de l'huile de palme appliquée sur la peau?
Personnellement, j'en ai pas du tout rencontré. D'accord. Du tout jusqu'ici. Oui. Pas du tout. J'en ai pas rencontré. Peut-être que ça existe, mais moi, j'en ai pas encore rencontré.
Alors, je vais vous poser aussi une question d'auditeur, parce qu'on voulait la prendre, mais on n'arrive pas à la voir, Vanessa. C'est ça, on n'arrive pas à l'attraper. Elle avait une question. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur Facebook aussi. C'est bien pour vous, Christine Mandanguet. Oui. C'est à propos, souvent, ils aperçoivent que la maladie se manifeste surtout durant la saison froide. Est-ce que vous voyez un lien, une explication?
La saison froide. La saison froide, oui, parce que notamment ici à l'ouest, la saison froide, l'air est très 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 sec. L'air est sec et donc lorsqu'on s'hydrate pas, on prend pas cette petite précaution. Peut-être qu'il y a une petite flambée d'atteinte cutanée. Mais il faut s'hydrater, il faut beaucoup s'hydrater.
Oui, le froid, docteur Sébastien Barbaro, c'est un impact sur l'eczéma?
Oui, le froid aussi est un facteur irritant pour la peau. Et sur cette barrière cutanée qui est altérée génétiquement, eh bien le froid vient l'irriter comme le fait le savon, comme le font des produits irritants. Donc c'est un facteur qui, parmi d'autres, peut aggraver, stimuler l'eczéma. Donc on voit souvent des eczémas atopiques qui s'aggravent au début de l'automne chez nous, alors qu'ils sont mieux l'été. Parce que l'exposition aux UV, modérée bien entendu, améliore souvent les gens qui ont de l'eczéma atopique. En fait, les UV améliorent alors que la chaleur a tendance à les aggraver. Parce que la chaleur entraîne la sudation et la sudation est mal tolérée chez les patients qui ont un eczéma atopique. Elle entraîne des démangeaisons. Donc souvent les gens recherchent une exposition aux UV pendant l'été, mais dans des zones qui sont aérées, plutôt fraîches. Voilà.
Donc ça, c'est un bon conseil aussi que vous donnez, docteur Christine Mandanguet.
Oui, bon, nous, on est en contexte chaud, donc avec des rayons solaires. Mais puis bon, les grosses chaleurs, le problème, c'est que les maisons sont aérées. Et il y a les vérandas, on sort, on n'est pas à l'intérieur des appartements. Et donc, je demande aux mamans d'aérer les enfants. et de les hydrater, de les aérer, de pas les confiner à l'intérieur, parce que en même temps il y a en saison il y a de la poussière et tout. Les mamans ont peur que parce que peut-être à cause de la poussière et tout, mais bon, entre les deux on choisit. On demande aux mamans d'aérer les enfants et puis voilà. Mmh.
Voilà. Quel est votre message essentiel pour tous ceux qui sont atteints d'eczéma ou les autres, docteur Christine Mandanguet?
Le premier message, c'est d'éviter les produits allergiques. Bon, il est vrai, nous sommes dans un contexte où les produits de les hydratants qu'on retrouve en France manquent énormément et ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Et donc, les mamans, je leur demande, au lieu de s'endetter ou d'utiliser les choses simples, comme l'huile de palmiste, hein, de se mouiller les mains avant de se les mélanger avec cette pâte, sous forme de pâte, avant d'hydrater l'enfant avec cela, d'éviter d'habiller les enfants trop chauds, hein, parce que ça, comme mon confrère l'a dit, ils vont transpirer et ça va aggraver les choses, et de les laisser, de les aérer et de surtout d'éviter les textiles mélangés là, de privilégier le coton. Voilà. C'est souvent ce que je leur dis.
Merci beaucoup, hein, docteur Christine Mandanguet. Vous êtes dermato-vénérologue à l'Université des Montagnes à Bangangté. C'est donc à l'ouest du Cameroun. Merci beaucoup pour avoir été avec nous en direct et très très bonne journée à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, Priorité Santé s'attaque à l'eczéma. Est-ce que vous trouvez, docteur Sébastien Barbaro, que la maladie est sous-estimée par le corps médical, hein?
Alors, elle a longtemps été. Les choses changent progressivement. Mais assez longtemps, la maladie était considérée comme pas vraiment une maladie, justement, des symptômes de début de la vie qui allaient passer, pour lesquels on n'avait pas de traitement, il fallait simplement patienter. Avec le temps, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une vraie maladie qui avait besoin d'une vraie prise en charge, avec une stratégie de traitement, qu'il fallait accompagner les patients, et ça nécessitait un suivi au long cours. Se sont développées depuis 10 ans, en France et dans d'autres pays dans le monde, des structures d'éducation thérapeutique dans les CHU, dans les centres hospitaliers, s'appellent les écoles de l'atopie, qui permettent de prendre le temps avec les patients, d'expliquer la vie quotidienne, les traitements, comment vivre avec son entourage, comment répondre aux questions. Voilà. Ça nécessite, la prise en charge d'un patient qui a un eczéma atopique nécessite de prendre du temps au début de la maladie. C'est très important.
Est-ce que vous trouvez que la dermatologie infantile est bien enseignée à l'école?
Oui, elle est à l'école. Vous voulez dire à l'école de médecine?
Oui.
Alors, comme toutes les spécialités, on voudrait avoir plus d'heures d'enseignement d'école de la dermatologie. Mais là encore, les choses se sont améliorées. Maintenant, il y a dans les universités un apprentissage de la dermatologie infantile qui est conséquent, qui pourrait être augmenté, mais qui est quand même conséquent pour les dermatologues, mais aussi pour les pédiatres, parce que les pédiatres voient ces enfants plus souvent que les dermatologues. C'est vraiment une maladie très quotidienne pour eux, donc il faut que les pédiatres soient bien formés. Il y a des diplômes d'université de dermatologie pédiatrique, il y a de l'enseignement sur de l'eczéma atopique pour les internes. Donc les choses se sont améliorées en France, depuis une vingtaine d'années.
Alors, il y a des questions aussi qui reviennent sur comment on peut faire la différence entre l'eczéma et le psoriasis?
Alors, le psoriasis est l'autre grande maladie chronique de la peau. Elle se présente très souvent différemment et cliniquement, un dermatologue ou un médecin qui a l'habitude peut faire la différence assez facilement. Le psoriasis se manifeste par des plaques rouges qui sont assez épaisses avec ce que l'on appelle des squames, c'est-à-dire des peaux blanches à la surface des plaques qui n'existent pas dans l'eczéma atopique. Donc les lésions sont assez différentes. Parfois, on peut être le diagnostic peut être un peu difficile chez les tout petits enfants et ça nécessite un avis spécialisé.
Alors est-ce que la prise d'antibiotiques avant l'âge de 1 an, on nous pose la question, peut augmenter le risque d'eczéma?
Alors oui, il a été montré que la prise d'antibiotiques répétée en période néonatale, surtout dans le premier mois de vie, augmentait un peu, pas de manière majeure, mais augmentait un peu le risque d'avoir une dermatite atopique. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire que les indications d'antibiotiques doivent être mises en cause dans cette période. Hein. Et quand il y a une indication à prendre antibiotique, il faut le prendre, bien entendu.
Ça peut être une des multiples causes aussi, c'est ça. Donc
causes. Et ce qui est difficile dans l'eczéma atopique, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule cause. Et bien souvent, on voudrait bien croire à cette idée qu'il n'y a qu'une cause à l'eczéma atopique, mais comme je vous l'ai montré, il y a plusieurs causes, des causes génétiques, des causes d'environnement, et il y a souvent une confusion, les gens pensent qu'on va trouver la cause de mon eczéma atopique. En fait, il n'y a pas de cause unique, hein. Il y a un ensemble de causes qu'il faut contrôler. C'est pour ça que c'est un peu difficile, cette prise en charge.
S'il y a beaucoup de zones d'ombre encore aussi sur cette maladie, est-ce qu'on peut quand même peut-être rassurer pour dire qu'en grandissant quand même, un enfant touché par l'eczéma a combien de chances de le voir disparaître ?
Alors, un enfant qui a de l'eczéma va voir son eczéma progressivement disparaître dans à peu près 7 cas sur 10. Hein. Mais quand même, dans 30% des cas, l'eczéma va persister sous une forme un peu différente. La localisation va changer quand l'enfant va grandir. L'eczéma va se localiser plus souvent au visage, au cou, parfois aux mains. Et quand même, sur 10 patients, eh bien 3 garde un eczéma atopique à l'âge adulte avec des niveaux de sévérité différents. Ce qui fait que la maladie chez l'adulte n'est pas du tout exceptionnelle. Hein. Dans la population générale, en France, 3 à 4% de la population est atteinte d'eczéma atopique.
Et est-ce que les filles sont touchées comme les garçons ou plus que les garçons ?
Non, il n'y a pas de différence de sexe. L'eczéma atopique est assez égalitaire.
Terminé avec les traitements pour la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements qui sont en développement en ce moment ?
Alors oui. Alors d'abord, il faut rappeler que le traitement de base reste la crème hydratante et les corticoïdes bien utilisés. Et il faut rassurer les gens sur les effets secondaires des corticoïdes. Ça, c'est très important. Ensuite, pour les formes les plus sévères, il y a des nouveaux traitements qui arrivent, et il y a beaucoup de recherches actuellement dans le monde sur l'eczéma atopique. Beaucoup de laboratoires et d'universités travaillent sur de nouveaux traitements. Et les traitements nouveaux consistent à utiliser des produits qui se font par injection sous-cutanée, une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, et qui vont aller agir de manière plus ciblée sur le mécanisme de l'inflammation de l'eczéma. Donc au lieu d'utiliser un traitement qui va avoir un effet très large sur l'immunité, qui va diminuer l'immunité, on va agir de manière beaucoup plus ciblée sur le mécanisme de l'inflammation de l'eczéma. Et ces médicaments ont fait l'objet de plusieurs études dans le monde, sont efficaces sur les eczémas sévères et vont être commercialisés bientôt en France.
Ils vont être mis sur le marché rapidement cette année ?
Oui, cette année ou l'année prochaine, oui.
Donc ça c'est le dernier message que vous voulez faire passer pour terminer l'émission autour de l'eczéma.
Ben, je pense que l'eczéma n'est pas une fatalité. C'est très important que les gens qui ont de l'eczéma ne pensent pas que on ne peut rien faire. Non, c'est faux. On peut faire beaucoup de choses. Il faut rencontrer un médecin. Au début de la maladie, il faut prendre en charge très tôt la maladie et établir avec ce médecin une stratégie de prise en charge qui passe par l'éducation thérapeutique, et il faut se rapprocher de centres qui délivrent de l'éducation thérapeutique. Bien sûr, l'éducation thérapeutique peut être faite au cabinet des médecins, bien les médecins prennent le temps de le faire, mais quand ce n'est pas suffisant, il faut se rapprocher d'un centre qui délivre des programmes d'éducation thérapeutique pour ces patients.
Merci beaucoup docteur Sébastien Barbaro pour avoir répondu à toutes les questions, avoir été si précis sur cette maladie et donner aussi de l'espoir. Je rappelle que vous êtes dermatologue pédiatre au service de dermatologie du CHU de Nantes. Merci aux équipes de France Bleu Loire-Océan qui vous ont accueilli pendant cette émission. Très bonne journée docteur.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, on va faire la fête avec le festival Solidaise, organisé donc par Solidarité Sida dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et ça se déroule donc ce week-end, hein, c'est à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. C'est du 22 au 24 juin. Et nous en parlons avec Luc Baruet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur fondateur de Solidarité Sida et organisateur donc du festival Solidaise. Ça fait 20 ans déjà, hein, après la première édition.
Qu'est-ce que ça passe vite.
20 ans.
heureusement, la solidarité rend heureux.
Alors, quel bilan pendant de ces 20 ans?
J'ai perdu des cheveux déjà. Non, plus sérieusement. Je pense qu'on peut être content d'avoir fait le pari de la jeunesse pour essayer d'améliorer un petit peu le monde, puisque ce festival a permis quand même de récolter plus de 25 millions d'euros depuis sa création, que cet argent a servi à financer beaucoup de programmes d'aide aux malades et de prévention en France et à l'international. Plus de 2200, hein, pour être concret. Donc, quand on achète un billet pour Solidaise, on vient aider une famille au fin fond du site Kivu à avoir accès à des traitements. On aide une famille à Bobigny à avoir accès à des besoins de première nécessité, comme on aide des jeunes au fin fond de la Côte d'Ivoire ou à Marseille pour avoir accès à des actions de prévention.
Oui, de nombreux partenaires en Afrique, hein, au Mali, au Cameroun, j'ai vu au Maroc, au Sénégal, beaucoup d'actions de prévention sur la transmission aussi, sur la prévention de la transmission mère-enfant. Est-ce que les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même pendant le festival Solidaise, pas que...
Il n'y a pas que des jeunes.
Bon. Est-ce que les jeunes, vous trouvez quand même, sont démobilisés sur le VIH?
Bah écoutez, non, ce qui est clair, c'est que la banalisation s'est installée. Elle se comprend 35 ans après l'arrivée du virus, c'est assez normal. Par contre, je trouve que les jeunes sont quand même très conscients des réalités, même si de temps en temps ils peuvent les oublier, notamment quand ils ont un petit peu bu ou qu'ils sont dans des environnements un peu trop festifs. Mais de manière générale, je trouve que les jeunes restent concernés par le combat et surtout très sensibles à l'action solidaire. J'ai la chance d'évoluer dans un environnement où il y a beaucoup de générosité, d'enthousiasme, d'altruisme, et d'assister à une évolution des mentalités. Quand j'ai dit une évolution des mentalités, je pense que Solidaise est au carrefour de ces grandes évolutions où les jeunes, et aussi les moins jeunes, ont besoin de plus en plus de sens, d'initiatives à caractère humain qu'ils ne trouvent pas dans les partis politiques de moins en moins aujourd'hui ou dans les entreprises.
Et pourquoi vous continuez à vous battre, vous, alors, Luc Barruet? Pourquoi?
Je me bats d'abord parce que malheureusement, il y a encore des besoins... Face au sida, je me bats parce que le fait de pouvoir participer au fait que des vocations naissent, et notamment chez des jeunes, eh ben, c'est quelque chose qui me nourrit et qui me fait plaisir. J'ai l'impression de transmettre, de partager un certain nombre de choses dont je considère qu'elles sont importantes pour moi et aussi pour les autres. Donc, je disais tout à l'heure que je me sens privilégié et redevable de vivre ce que je vis depuis 25 ans avec Solidarité Sida et 20 ans avec Solidaise. Comme les autres, moi j'attends ce rendez-vous avec impatience parce que Solidaise, vous savez, c'est un peu le festival bisounours. Quand je dis bisounours, c'est que il y a tellement de bienveillance, il y a tellement d'empathie, il y a tellement de générosité, d'enthousiasme, que je pense que ça nous ferait tous du bien si l'esprit Solidaise infusait un peu plus dans nos quotidiens.
Donc on ira ce week-end du 22 au 24 juin au festival Solidaise à l'hippodrome de Longchamp, c'est à l'ouest de Paris. Merci beaucoup, hein, Luc Barruet. Je rappelle que vous êtes directeur fondateur de Solidarité Sida et organisateur du festival Solidaise. Merci à toute l'équipe, Assetou Assamaké, Didier Bleu, Sigrid et Baptiste Madinier. Demain, Caroline Paris revient. L'émission sera consacrée à la lutte contre le VIH, justement, avec les acteurs locaux au Sénégal. Passez une très très bonne journée à tous. Portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.